Direct du studio de la VOA New York, Jean-Victor Ngolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a également occupé des postes de responsabilité en RDC pour le compte de l'ONU. Et justement, depuis la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Alors la campagne électorale qui s'échelonne sur un mois a démarré le dimanche 19 novembre dernier. Frédéric Amani, je commence par vous. Vous qui êtes sur place, comment se déroule-t-elle cette campagne? Quel bilan en faites-vous jusqu'ici?
Bien, merci beaucoup pour la parole. Je salue les co-débatteurs sur le plateau et celui qui est aussi sur Skype. Merci pour la question. Jusque-là, la campagne qui a commencé depuis le 19 novembre, aujourd'hui c'est la troisième semaine. Nous saluons la tenue de ces élections, mais nous devons relever en fait ce que les deux dernières semaines étaient émaillées de quelques incidents. Nous déplorons la mort, vous l'avez dit dans votre reportage, la mort du jeune coordonnateur de la jeunesse du parti de l'opposant Moïse Katumbi à Kindu dans les Maniema, et au Kasaï aussi quelques incidents. Mais nous pensons que les dirigeants des partis politiques doivent apprendre à sensibiliser, à éduquer leurs militants. Mais avant d'éduquer les militants, je pense que le même responsable des partis politiques devrait intérioriser l'idée selon laquelle qu'une campagne électorale n'est pas un champ de bataille. Ils ne sont pas ennemis, mais ils sont des adversaires politiques, et qu'on devrait accorder la chance et la possibilité à chaque candidat.
Oui.
La majorité.
Oui, effectivement. Alors, nombre d'électeurs congolais affirment justement que sur le plan organisationnel, la CENI, la commission électorale du pays, n'inspire pas confiance. Ils évoquent notamment la mauvaise qualité de cartes d'électeurs dont les inscriptions et photos se sont effacées. Dans le Nord Kivu, deux territoires ne vont pas pouvoir voter normalement, surtout à cause des attaques meurtrières attribuées aux groupes armés qui sévissent dans cette région depuis de nombreuses années, dont le M23. Boyana Koulibaly, comment cette situation sécuritaire volatile et ces problèmes logistiques impactent-ils la préparation et le déroulement de ces élections?
Oui, de nombreux indices montrent que les conditions pour tenir les élections ne sont pas remplies et qu'on se dirige effectivement vers une fraude électorale. Il y a l'absence du fichier électoral, des problèmes de logistique comme vous les avez cités. Le porte-parole de la campagne du président congolais a affirmé il y a quelques jours que les bulletins de vote étaient encore en cours d'impression en Chine. Il manquerait aussi quelques centaines de millions de dollars sur le budget électoral. Beaucoup de zones ne sont pas accessibles par la route, donc il y a des gens qui ne vont jamais voter. Par rapport à la situation à l'Est, la CENI a décidé d'exclure des territoires au Nord Kivu. Effectivement, il y a plus de 200 groupes armés qui perpétuent la violence, en plus de l'armée régulière congolaise qui a officiellement intégré les plus violents parmi ces groupes, notamment le FDLR, qui sont les forces résiduelles ayant perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Ces différentes milices nourries par une idéologie xénophobe contre un prétendu envahisseurs rwandais ont été rebaptisés Wazalendo. L'alliance du gouvernement comprend aussi près de 2000 mercenaires blancs européens. Donc imaginez des élections alors que le gouvernement congolais est complice de la violence contre ces populations à l'Est est inconcevable.
Alors, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, jugée inefficace par Kinshasa, a commencé dimanche dernier à quitter la RD Congo. Quant à la MONUSCO, la mission de l'ONU, également accusée d'inefficacité, elle travaille sur un plan de retrait à la requête du gouvernement congolais. Jean-Victor, quel défi représente de telles démarches de retrait de forces de maintien de la paix pour la stabilité du pays, particulièrement dans le contexte du processus électoral en cours?
Le défi est énorme. Je me souviens des années où travaillant au Congo, nous essayons en tant que Nations Unies de contribuer à l'organisation et à la tenue d'élections crédibles. Il faut dire que avec la controverse autour des forces africaines qui étaient jusqu'à récemment déployées au Congo, avec le désengagement de la mission des Nations Unies qui va se terminer par un retrait dans quelques mois, il faut dire que ces élections en République démocratique du Congo sont extrêmement importantes. Le Congo est un pays immense, les défis sont aussi immenses. Le Congo a une très grande population, une frontière avec de très nombreux pays africains et le monde entier, mais tout d'abord, la population congolaise elle-même observe ces élections. Parce que le Congo est un potentiel extraordinaire pour l'Afrique, ne serait-ce que sur le plan de l'énergie avec son potentiel hydroélectrique. Le Congo est un potentiel important pour sa population, mais aussi pour la sous-région. Le Congo pourrait nourrir et électrifier toute l'Afrique. Donc, il est très important qu'avec tous ces désengagements, ces controverses, mais aussi ces implications internationales, les Congolais, par cette élection, quelle que soit l'imperfection de cette élection, c'est important que les Congolais continuent à confirmer leur maturité en tant que peuple. Cela fait effectivement longtemps que les Nations Unies sont au Congo depuis pratiquement les années d'indépendance. Les missions ont continué à s'y déployer et à changer de nom. Et il faut espérer qu'avec ces élections, le Congo va entrer dans une phase nouvelle qui lui permettra de faire non seulement la paix avec lui-même, mais aussi avec ses voisins.
Frédéric Amani, une réaction rapide à cette question de retrait de forces étrangères. Comment vous, les Congolais, voyez cela?
Bien, c'est vrai. Je vais commencer par le retrait de la force régionale qui a montré effectivement, vous l'avez dit, ses limites. Et c'était important que cette force quitte les territoires congolais parce que la plupart des États membres des East Africa Community qui constituent cette force n'ont jamais cessé de manifester leur ambition expansionniste. Voilà pourquoi cette force était inefficace. Mais le retrait de la MONUSCO, cette force onusienne, doit être un retrait ordonné et progressif pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle en sécurité un vide sécuritaire. Voyez-vous, avec la situation fragile sur terrain, si aujourd'hui la force onusienne arrivait à quitter les territoires congolais sans que l'armée congolaise mais républicaine, capable de sécuriser les frontières congolaises, qui depuis un temps sont devenues poreuses, eh ben, je crains que, après le départ de la force onusienne, qu'il y ait un vide sécuritaire et on sera obligé de revenir à la case de départ. Mmh. Nous saluons cette décision, mais nous pensons que le gouvernement congolais va continuer à fournir beaucoup d'efforts pour engager des réformes au sein de l'appareil sécuritaire, afin qu'après le départ de la MONUSCO, qu'il n'y ait pas un chaos, ce que je ne souhaite pas, mais la force régionale doit partir le plus tôt parce qu'elle a montré ses limites.
Alors, pour rappel, Félix Tshisekedi, le chef de l'État sortant, est candidat à un second mandat. Il s'agit d'un scrutin à un tour. Un quatrième candidat de l'opposition s'est désisté il y a quelques jours en faveur de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Parmi les 22 prétendants qui demeurent dans la course à ce jour, figurent Martin Fayoulou, candidat malheureux en 2018, et Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix. Frédéric Amani, vraiment brièvement, de manière générale, comment les candidats abordent-ils les grands défis tels que l'économie, l'emploi, le chômage des jeunes et la sécurité ?
Bien, nous déplorons le fait que lorsque vous lisez les discours des différents candidats à la présidentielle, et je crois qu'à un certain moment, on doit noter qu'il y a certains discours qui sont vides, vides dans la mesure où ils ne présentent pas les programmes. Certains le présentent, mais d'autres ne le font pas. Ils se contentent par des slogans et des discours qui sont teintés peut-être des discours des discours de haine ou des racismes ou des tribalismes. Malheureusement, nous pensons que lors de ces moments de campagne, c'est un moment convivial où les candidats présidents doivent présenter un projet de société offrant et à l'issue desquels le souverain primaire, donc le peuple congolais, va décider qui confier la destinée de cet immense pays qui a beaucoup de potentialités mais qui reste malheureusement pauvre par manque, n'est-ce pas, d'un leadership visionnaire et d'une bonne gouvernance qui peut permettre à ce que la RDC puisse aller de l'avant. Donc, nous, c'est au fait ça.
Voilà. Boyana Koulibaly, comment évaluez-vous le rôle des discours politiques dans l'escalade des conflits en RDC et quel impact ces discours ont-ils sur la perception internationale de la situation?
Oui, justement, je voudrais répondre à mon copanéliste ici, Frédéric Amani. Le retrait de l'EAC est surtout lié à une campagne de désinformation par rapport à la présence de l'EAC. Parler d'inefficacité ou parler d'expansionnisme fait justement partie de ces clichés racialistes où on a vu Justin Bitakwira qui reprend les théories hamétiques du président, attribuant au président kényan et ougandais des caractéristiques physiologique ou faciès tutsi, disant également que les troupes kényanes sont des tutsis qui sont venus envahir le Congo. Donc on est ici dans une campagne de désinformation. Ce discours est malheureusement diffusé et disséminé aussi bien par les médias, les discours politiques, mais comme vous avez vu aussi des pseudo-experts. Moi je pense que les discours politiques contribuent à l'escalade de la violence. La xénophobie, on parle de discours de haine, mais on ne la cite pas. Elle est dirigée envers les Tutsis congolais et elle a été systémique depuis des décennies en RDC. Aujourd'hui, elle a atteint de son paroxysme avec des crimes de haine et des lynchages de citoyens congolais en plein jour à Goma ou à Kinshasa. Nous avons vu Tshisekedi aux côtés de Charles Nana, qui est un négationniste notoire. Nous avons vu également le candidat aux élections, Dr. Denis Mukwege, qui a appelé à la fermeture des frontières avec le Rwanda dans une tribune commune avec le candidat Fayulu. Donc la présence de médias de haine et de discours de haine sur les réseaux sociaux nourrissent en fait et font écho à ces discours politiques caractérisés par la tutsiphobie.
Jean-Victor, comment percevez-vous le rôle des observateurs internationaux dans le processus électoral en RDC, notamment suite à l'annulation de la mission de l'Union européenne? En quelques mots, si vous pouvez.
Ce rôle est essentiel. Il n'y a pas d'élection qui puisse se passer dans un vase clos. Donc les autorités congolaises avaient et ont tout intérêt à voir les observateurs internationaux sur place. Il faut aussi dire que les autorités congolaises ont elles-mêmes la responsabilité, par exemple, de renforcer la liberté de la presse en tant que membre et président du comité d'honneur de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, l'UJPLA. Il faut effectivement lutter contre le harcèlement des journalistes qui, eux, peuvent permettre la transmission de messages qui, mentalement, des questions structurelles qu'il faut résoudre pour que l'État puisse non seulement s'étendre sur tout le territoire, qu'il y ait aussi la paix de cœur, qu'il y ait des messages de paix et d'apaisement dans tout le pays. Il faut pour cela que des élections soient apaisées, observées et tout à fait crédibles.
Alors il faut dire qu'outre la société civile et les églises congolaises, le centre Carter, basé ici même aux États-Unis, surveillera les élections du 20 décembre, de même qu'une équipe de la SADC, la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Et maintenant, quelques extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki de Kinshasa, en RD Congo justement. Ces scrutins doivent se dérouler en toute transparence dans l'organisation et dans la publication des résultats, sinon toute fraude peut dégénérer en conflit post-électoral au regard des violences qu'on observe maintenant dans la campagne entre militants des divers candidats. Et Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, le futur président aura la charge d'assurer la sécurité dans toute la RDC et ça sera la meilleure promesse en faveur des populations congolaises. Merci bien pour tous vos commentaires. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite du Washington Forum. Ce sera après cette courte pause. Merci.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez retrouver nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
De retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 7 décembre 2023. Nous braquons les projecteurs sur les élections générales qui vont se tenir dans 2 semaines en République démocratique du Congo. Quelques repères rapides à partir d'informations fournies par l'AFP. Le mercredi 20 décembre prochain, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur une centaine de millions d'habitants sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi 25 832 candidats aux législatives, 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales. Un record d'après la commission électorale dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés aux infrastructures très limitées. Et voilà, nous retrouvons sans plus tarder nos invités dans la seconde partie du programme. Docteur depuis la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationale à l'université de Lubumbashi. Il est également un expert des questions de sécurité, de défense et de maintien de la paix auprès de l'Institut Thales Afrique basé à Dakar au Sénégal. Docteur Boyana Koulibaly, analyste du discours sur les conflits en Afrique. Elle nous rejoint via Skype de la ville de Boston dans l'état américain de Massachusetts. Et en direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de 3 présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Merci bien d'être avec nous. Frédéric Amani, des mesures ont-elles été prises pour contrer la fraude électorale et garantir des élections transparentes? Sont-elles jugées efficaces, ces mesures?
Bien, je pense oui, parce que d'abord, chaque parti politique, au travers son quartier général, met en place des stratégies pour que cette fraude électorale ne puisse pas exister, mais aussi au niveau national, au travers les institutions d'appui à la démocratie, la CENI notamment, et aussi quelques organisations de la confession religieuse, sont vigilantes pour que ces scrutins soient transparents, démocratiques et apaisés. Et nous pensons que ces mesures vont vraiment conduire à ce que ces scrutins soient transparents. Nous déplorons, vous l'avez dit, l'absence des observateurs internationaux, c'est-à-dire, j'ai fait allusion au RFI de l'Union européenne au travers ces observateurs, mais nous pensons que la société civile, les confessions religieuses et les partis politiques de la majorité de l'opposition vont travailler à ce que ces scrutins soient transparents et que les stratégies mises en place conduisent à, n'est-ce pas, à ce que après les élections ou pendant les élections qu'il n'y ait pas de troubles, parce que nous pensons à, il est déjà la 4e expérience électorale, et bien nous estimons et nous pensons que la maturité démocratique ou électorale, si vous voulez bien, doit être démise pour que après les élections, que la population congolaise puisse festoyer la victoire d'un candidat qui ne sera pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais ce sera la victoire de tout un peuple, la victoire de l'avenir de la RDC.
Ouais. Boyana Koulibaly, comment l'histoire politique de la RDC a-t-elle façonné le paysage politique actuel et les attentes des électeurs? Je sais qu'il s'agit là d'une vaste question, mais en quelques mots, si vous pouvez.
Oui, tout à fait. Je pense que parler des élections aujourd'hui, c'est une politique de diversion. Il y a tellement de problèmes à résoudre. Et comme vous l'avez dit, ces problèmes sont liés à l'histoire politique de la RDC. La paix et la sécurité sont une précondition à la stabilité du Congo et l'attente principale, je dirais, des citoyens congolais, sans parler des électeurs, puisque comme on l'a dit, il n'y a pas possibilité d'avoir des électeurs s'il n'y a pas de fichier électoral. Les causes profondes de l'insécurité en RDC ont été clairement exposées à de maintes reprises dans les rapports de l'ONU depuis 25 ans. La présence des forces génocidaires et de la xénophobie systémique faisant des minorités tutsi congolaises des citoyens de seconde classe est à la base des problèmes d'instabilité en RDC. Oui. Les institutions et les médias internationaux, les organisations internationales des droits de l'homme, les sociétés civiles congolaises, en fait, contribuent à l'exacerbation de la violence, qui est une conséquence de la xénophobie structurelle citée. Et ce, à travers le refus de s'attaquer aujourd'hui à ces causes profondes, préférant attribuer la responsabilité à un bouc émissaire, en l'occurrence le M23 et le Rwanda, ce qui en fait constitue une politique de diversion, donc éloigne l'échéance de la résolution du problème.
Sauf qu'il y a des voix internationales, évidemment, qui ont condamné les attaques perpétrées par le M23. Jean-Victor Nkolo, comment l'ONU et la communauté internationale peuvent-elles accompagner efficacement la RDC dans son processus électoral tout en respectant sa souveraineté?
Oui, je pense que, comme le disait tout à l'heure notre confrère en ligne de la RDC, il faut effectivement que le désengagement des Nations Unies, de la mission de la MONUSCO au Congo, se fasse de manière très ordonnée. Parce qu'on ne voudrait pas passer de Charib à Sila, on ne voudrait pas aller d'une situation où le Congo a essayé par ses propres moyens, par sa propre énergie, à organiser des élections et puis ouvrir la voie à une sorte d'aventure parce que on aurait laissé béante des airs d'insécurité dans le pays. C'est déjà difficile dans ce contexte électoral d'organiser des pas un scrutin qui fait fi un peu des 7 millions de personnes qui sont déplacées seulement dans le nord-est du pays, qui fait fi des défis sécuritaires importants, mais aussi des défis logistiques qui ne sont pas rien. Donc, on peut, d'une certaine manière, on doit peut-être même féliciter les autorités congolaises qui ont fait des efforts importants dans un pays qui s'étend sur plusieurs fuseaux horaires, dans un pays qui n'est pas seulement un pays, qui est plus qu'un pays, qui est un sous-continent. Donc l'accompagnement des Nations Unies, de la communauté internationale et de toutes les entités de bonne volonté pour un pays si important pour l'Afrique et pour le monde, eh bien cet accompagnement est absolument nécessaire. Les Congolais ne peuvent peut-être pas le faire tout seuls, mais le fait que les Congolais essayent de s'approprier leur destin d'une manière ou d'une autre, même si c'est encore imparfait, il faut encourager cela et continuer à soutenir cet effort.
Boyana Koulibaly, en quelques secondes, en cours. Pourquoi ces élections sont-elles cruciales pour l'avenir politique et le développement de la RDC ?
Oui, les élections et la démocratie, en fait, calquées sur le modèle occidental, ne marchent pas avec les réalités locales africaines. Je pense qu'il faut proposer un exercice démocratique adapté et qui tient compte des besoins des populations avec des projets politiques réalisables, basés sur la particularité de la situation du Congo, les dimensions du pays, la diversité socio-culturelle, l'histoire politique, comme nous l'avons cité tout à l'heure, comme par exemple tenir compte du droit du retour de plus de 600 000 réfugiés depuis plus de 20 ans dans les pays limitrophes.
Oui. Frédéric Amani, je vous donne le mot de la fin. Quelles sont les attentes des citoyens congolais envers leurs futurs élus, dont le président et les députés?
Les attentes sont nombreuses parce que avec l'immensité du pays, avec autant de potentialités, mais la RDC reste à genoux par manque, n'est-ce pas, du leadership transformateur et d'une gouvernance capable de hisser la RDC au sommet en temps et afin qu'elle puisse jouer un rôle prépondérant comme acteur agissant des relations internationales. Et nous pensons que ces élections seront une occasion de plus des Congolais de confier leur destinée entre les mains d'un dirigeant qui va prendre soin des problèmes majeurs, les problèmes de sécurité, les problèmes de paix. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, on sera en train de se contenter d'avoir organisé autant d'élections sans avoir résolu ces problèmes de paix et de sécurité. Il n'y aura pas de développement.
Le mot de la fin, voilà, merci beaucoup. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Boyana Koulibaly, Frédéric Amani et Jean-Victor. Nous disons merci également à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care. Merci.